Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès sur Nutri Radio comme chaque vendredi, enfin sauf la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un raté.
Ça arrive, hein. C'est un petit peu la période souvent de fin d'année où finalement il y a tellement de choses à régler, à gérer que on peut pas être sur tous les fronts. Donc ravi en tous les cas d'être là aujourd'hui.
Vous nous avez manqué, vous savez, un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Ah, je sais bien.
Ah, on s'attache, hein, c'est ça, c'est de l'humain, la radio, entre les intervenants et puis moi-même, entre les auditeurs et puis les intervenants. Voilà, on est dans l'humain, on essaie de vous donner des informations utiles pour votre vie de tous les jours et encore aujourd'hui. Ça va être le cas pour cette dernière émission de l'année. Et je peux vous dire que la voix, elle est là, mais elle est sur un fil. Heureusement que c'est vous qui donnez le contenu. On va parler de l'addiction au tabac avec vous, Célia. Qu'est-ce que l'addiction au tabac? Question qui peut paraître un peu bête de ma part, mais vous allez voir que c'est bien de tout comprendre en découpant un petit peu les mécanismes et les séquences.
Alors totalement. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'addiction au tabac, finalement à la cigarette. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas addict au tabac en lui-même. On est addict à une substance qu'il y a dans la cigarette, qui est la nicotine. Donc, on est addict à la nicotine. Mais évidemment, la nicotine, on la trouve généralement dans le tabac, dans les cigarettes. Et c'est ce qui va occasionner d'ailleurs les conséquences négatives. On le verra tout à l'heure dans les conséquences, en dernière partie d'émission, les conséquences de ce type d'addiction. En fait, la nicotine n'a pas de conséquences négatives en elle-même, à part l'addiction. C'est le tabac qui a les conséquences négatives sur la santé, qui occasionne cancer, etc. Ce qui est un petit peu différent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne devient pas addict par rapport peut-être à d'autres types d'addictions au tabac de suite. Parce qu'il faut avoir trois, finalement, caractéristiques pour pouvoir devenir dépendant au tabac et donc à la nicotine. D'abord, être finalement réceptif aux effets psychoactifs de la nicotine qui sont à la fois stimulants, ça stimule les capacités cognitives, ça a été prouvé à plusieurs reprises, et aussi, c'est un effet relaxant. Il faut aussi être très tolérant aux effets aversifs du tabac. Pourquoi ? Parce que quand on fume, les premières fois qu'on teste une cigarette, ça pue. Ça pue parce qu'il y en a toujours cette odeur qui est quand même assez désagréable, notamment le tabac froid. C'est assez désagréable. Et suivant notre taux de tolérance, ça ne va pas avoir le même impact. Ensuite, évidemment, il y a le fait de répéter le comportement. Ce qui signifie que finalement, la première relation qu'on peut avoir avec des cigarettes, on teste, c'est pas pour cela qu'on va devenir addict. 80% des personnes d'ailleurs qui ont testé le tabac, les cigarettes, ne sont pas devenues addictes. Il a fallu qu'il y ait répétition du comportement habituation, qu'il y ait une tolérance aux effets aversifs, à cette odeur négative, à ce goût qu'on peut avoir dans la bouche qui est désagréable, et effectivement, c'est pas de la tolérance, mais le fait qu'on soit très réceptif aux effets psychostimulants et relaxants de la cigarette. Le problème de l'addiction finalement à la cigarette et au tabac, ça va être qu'elle est physiologique, mais réellement physiologique par rapport peut-être à d'autres types d'addictions. C'est-à-dire que les fumeurs vont se créer un centre de besoin en nicotine, un centre physiologique de besoin en nicotine, comme on a un centre de la glycémie. Vous savez, lorsqu'on a une diminution des glucides, de la glycémie, on a faim. Hein, on est en hypoglycémie, on a une diminution, donc on est obligé de se nourrir pour rebooster effectivement ce taux de glycémie parce que la glycémie est trop basse. Eh ben, les fumeurs vont se créer le même type de centre pour la nicotine, ce qui signifie que lorsque leur taux de nicotine sera trop bas, ils vont avoir besoin de fumer pour remonter ce taux de nicotine pour qu'il soit optimal pour eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on dit que finalement, ce qui marque la dépendance au tabac et à la nicotine, c'est la première cigarette du matin. Puisque lorsqu'on se lève, le taux de nicotine est au plus bas puisqu'on est à jeun de la nuit, comme on est à jeun au niveau de l'alimentation, et c'est pour ça que généralement on a faim le matin, ça va être exactement pareil. Et la dépendance va se mesurer entre le temps que l'on met, qu'il va y avoir entre le lever, lorsqu'on met un pied à terre, et finalement le moment où la personne va allumer sa première cigarette. Et les personnes, il va y avoir deux effets qui marquent la dépendance, l'effet bolus et l'autotétration. Donc, c'est des termes un petit peu compliqués. Mais un, c'est pour faire remonter un shoot, l'effet bolus, un shoot de nicotine, pour faire remonter, évidemment, le taux de nicotine de manière rapide. Et ensuite, il va y avoir la manière, l'autotétration, toujours dur à dire, la manière dont les fumeurs vont s'adapter pour pouvoir optimiser leur taux de nicotine et l'adapter. Et comment est-ce qu'ils vont s'adapter? Eh ben, ça va dépendre. Ils vont fumer soit très rapidement, soit plus doucement. Inhaler un peu plus, effectivement, lorsqu'ils vont fumer aussi. C'est leur manière de fumer qui va leur permettre, effectivement, d'adapter le taux de nicotine.
Bien, écoutez, on va voir dans un instant les mécanismes neurobiologiques, parce que là, maintenant, on comprend un petit peu. Hey, je vous avais dit, petite question, qu'est-ce que l'addiction au tabac? Eh bien, c'était pas si évident. En tout cas, là, c'est bien décrypté. Merci beaucoup, Célia. Est-ce que vous préférez un petit jingle de Noël après, pour la deuxième pause ou la première?
Comme vous préférez.
Bon, eh bien, écoutez, on va pas se priver. Petite ambiance de Noël et on revient dans un instant pour parler des mécanismes neurobiologiques. Que se passe-t-il dans notre cerveau lors de ces addictions et de cette addiction au tabac? C'est juste après. Ceci sur Nutri Radio.
Nutri Radio vous souhaite un joyeux Noël.
Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio. On parle de l'addiction au tabac avec vous aujourd'hui. Vous avez expliqué exactement ce que c'était. Maintenant, on veut savoir et on va s'intéresser aux mécanismes neurobiologiques. Que se passe-t-il dans notre cerveau, Célia?
Alors, on le sait, tout type d'addiction va augmenter, surstimuler le système de récompense, c'est-à-dire la libération de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le plaisir, mais aussi dans notre motivation à faire un comportement. Donc déjà, dès qu'on prend du plaisir à faire quelque chose, c'est logique, il y a libération de dopamine. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous prenez du plaisir sur Nutri Radio, vous avez une libération de dopamine. Le problème de la nicotine, c'est qu'elle va se fixer sur ses récepteurs nicotiniques au niveau de l'aire tegmentale ventrale des neurones dopaminergiques. C'est-à-dire qu'on a des neurones dopaminergiques, le corps cellulaire va se situer au niveau d'une région cérébrale, l'aire tegmentale ventrale, et la libération va se faire dans une autre région qui s'appelle le nucleus accumbens. Ce qui va se passer, c'est que la nicotine va se fixer au niveau de l'aire tegmentale ventrale, entraînant évidemment cette libération de dopamine, donc cette motivation à refaire le comportement qui va effectivement être en lien avec l'addiction des personnes qui effectivement sont addictes au tabac. Mais ce qui va se passer aussi, on a dit en première partie d'émission qu'à la fois le tabac, la nicotine finalement va avoir des effets de surstimulation du cerveau finalement psychoactif, nous permettant d'être un peu plus actif, un peu plus performant au niveau des fonctions cognitives, mais aussi évidemment un peu relaxant, anxiolytique. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'en dehors de la dopamine, on va avoir aussi libération de noradrénaline notamment et de sérotonine. Or la noradrénaline, c'est impliqué dans la stimulation et les performances. C'est un effet stimulant sur les performances intellectuelles notamment. Donc forcément, on va avoir l'impression, et même il y a des études qui l'ont montré, que ça pouvait augmenter ses performances. Alors les études sont pas toujours très 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 probantes, ça dépend, mais il y a quand même eu des chercheurs qui ont montré l'effet positif de la nicotine effectivement sur les performances cognitives et sur la mémorisation et les apprentissages. Et d'un autre côté, on a libération de sérotonine, qui effectivement le neurotransmetteur qui est impliqué dans le sommeil, dans la régulation de l'appétit, mais aussi effectivement dans la régulation de l'humeur. Donc ça a un effet peut-être un petit peu anxiolytique, bien-être, qui fait que les personnes qui fument et qui sont sensibles aux effets psychoactifs de la cigarette vont en ressentir les effets parce que leurs neurotransmetteurs vont avoir un taux de libération beaucoup plus important qu'ils ne l'auraient finalement, enfin beaucoup plus important, relativement plus important que s'ils n'avaient pas fumé. Et tout à l'heure, je parlais des effets de la nicotine sur les performances cognitives. Il faut savoir qu'il y a eu un temps, mais c'est peu probant, ça a été arrêté. Il s'était dit pourquoi pas donner de la nicotine justement aux personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer pour rebooster effectivement leur performance cognitive, on va dire, et éviter le déclin cognitif et les problèmes de mémorisation. Pourquoi ? Parce que la nicotine se fixe sur le récepteur nicotinique, mais c'est exactement le même récepteur où se fixe notre neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, et l'acétylcholine est impliquée dans la mémorisation et les apprentissages. Mais ça a été peu probant. Mais voilà effectivement ce qui va se passer, les effets neurobiologiques qui expliquent les comportements, effectivement le côté psychostimulant et anxiolytique que l'on peut ressentir en consommant de la nicotine, donc en fumant sa cigarette.
Est-ce que c'est comme ça pour, sur les mécanismes, hein, pour toutes les addictions finalement ?
Alors ça dépend des types d'addiction, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours une surstimulation du système de récompense avec libération de dopamine beaucoup plus importante qu'elle devrait l'être.
Après,
ça dépend effectivement de certains types d'addiction, de certaines substances. Ils vont pas forcément se fixer sur tous les mêmes récepteurs, ce qui va expliquer effectivement qu'on va avoir des effets qui vont être totalement différents. On le verra la semaine prochaine avec l'alcool, où il y a des effets différents. Mais effectivement, en tous les cas, le point principal, c'est cette surstimulation du système dopaminergique.
Bien, dernière posée, on se retrouve pour parler des conséquences sur la santé. Restez avec nous, hein, surtout, c'est peut-être pas la partie... mais il faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut en parler, il faut bien les connaître. Et au-delà de celles qui sont réputées, il y a des causes inattendues. C'est juste après ceci.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio avec une petite voix d'outre-tombe, c'est la mienne, mais Célia Morès est là pour vous parler de l'addiction au tabac. Vous nous avez dit ce que c'était, vous nous avez expliqué un peu les mécanismes neurobiologiques et ce qui se passait dans notre cerveau. Maintenant on va parler des conséquences et juste avant la pause j'ai dit qu'il y avait au-delà des conséquences que l'on connaît, que l'on soit fumeur ou pas, hein, j'ai dit qu'il y avait des conséquences aussi inattendues. Est-ce que j'ai survendu la séquence ?
Non, pas du tout, mais effectivement, il y a des conséquences auxquelles on ne peut ne pas penser. Alors évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par les conséquences les plus banales, c'est-à-dire étant donné qu'on va plus avoir notamment... les conséquences, on va voir les conséquences de la personne qui continue à fumer et les conséquences de la personne qui va s'arrêter de fumer. On va commencer par celle-ci, c'est-à-dire la personne va se situer en situation de sevrage. Donc effectivement, puisque le fait de fumer et qu'il y ait cet apport de nicotine, ça augmente la libération de dopamine, de noradrénaline et de sérotonine. Évidemment, on peut perdre la motivation. Ça, effectivement, et le plaisir, le comportement plaisir, effectivement, qu'il pouvait y avoir si on a moins de dopamine, on est moins motivé à faire certaines actions. Mais surtout, je voudrais focaliser sur la noradrénaline et la sérotonine. La noradrénaline, elle est impliquée dans les effets stimulants sur l'éveil et sur les performances. Donc, si on diminue, les performances, on va avoir l'impression que nos performances diminuent. On va se sentir un petit peu aussi... agité. On va avoir d'autres types de problèmes, des difficultés à se concentrer parce qu'on va avoir un gap entre le taux de noradrénaline qui était libéré lorsque la personne consommait du tabac, lorsque vous consommez du tabac, et le fait qu'à un moment donné, on est en sevrage et on arrête. D'autre part, ça va être pareil pour la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur, finalement, du bien-être, etc. Et on sait que lorsqu'on manque de sérotonine, ça peut conduire à une dépression. Donc, c'est typiquement le côté un peu dysphorique, pas bien, que l'on va ressentir un petit peu déprimé que peut ressentir une personne qui va arrêter effectivement la consommation de tabac et de cigarettes, et effectivement aussi ce côté peut-être prise de poids, tout simplement parce que la sérotonine est impliquée dans les compulsions alimentaires. On sait que lorsqu'on manque de sérotonine, ça va effectivement pousser la personne probablement à avoir des compulsions alimentaires. Ça a été montré, le lien entre sérotonine et comportement alimentaire. Donc là, probablement que ça peut expliquer peut-être les fringales. Je dis bien peut-être parce que c'est pas la seule raison, mais les fringales que peuvent ressentir les personnes qui décident de se sevrer effectivement du tabac et arrêter de fumer. Après, pour les fumeurs, évidemment, il y avoir les conséquences attendues, hein, c'est-à-dire tous les cancers. Donc, on va avoir effectivement les cancers pulmonaires, les cancers hépatiques. Donc, ça, évidemment, c'est connu. Ça, on sait que les fumeurs ont un risque supérieur à développer ce type de cancer. Mais aussi, on va avoir les risques cardiovasculaires, c'est-à-dire finalement un mauvais cholestérol qui risque d'être un peu plus important, des facteurs de risque de diabète, ça a été prouvé dans certains articles, ça a été mis en avant par des chercheurs, effectivement des risques de thrombose, bien évidemment, des risques pulmonaires où les personnes, on va finalement, vous allez, pour ceux qui fument, être un peu plus sensibles finalement aux bronchites, à tous ces maux de l'hiver, va-t-on dire, avec des infections qui peuvent avoir prendre place au niveau de tout ce qui est poumons. On va avoir aussi, ça c'est important, une diminution du goût et de l'odorat. Hein, c'est-à-dire que finalement, les personnes généralement qui fument perdent le goût et l'odorat un petit peu et elles vont le retrouver quand elles vont arrêter de fumer. Pourquoi ? Ben parce que c'est empreinte de ce goût de la cigarette, du tabac, qui est généralement pas bon du tout, sauf que les personnes addictes sont devenues tolérantes. Mais c'est vrai que ça va gâcher les papilles gustatives. Et effectivement, il y a aussi l'amplification, l'aggravation de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est quoi ? C'est effectivement une inflammation, notamment du tube digestif, qui peut être grave. En tous les cas, on peut se faire opérer et ça occasionne une prise en charge assez lourde. Ça dépend effectivement du type de maladie de Crohn, enfin jusqu'à quel point la maladie de Crohn, on va dire, est installée et quelle partie du tube digestif est touchée et si c'est une petite ou une grande partie. Mais personnellement, pour avoir eu des amis qui sont atteints, c'est vrai que c'est quand même une maladie douloureuse et quelque part handicapante. Et il a été mis en avant par certains chercheurs que le tabac, dans les complications, pouvait aggraver ce type de pathologie. Donc c'est vrai que c'est un problème, d'autant qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans les complications liées au tabagisme, c'est que les personnes qui ont décidé de devenir non-fumeurs ne sont pas des non-fumeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rémission totale. C'est-à-dire c'est plutôt des personnes qui vont être en rémission. Effectivement, on parle de rémission de la maladie, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un risque de rechute, de retombée, à la fois parce qu'on va manquer de nicotine et le centre physiologique risque de faire appel à « donne-moi de la nicotine pour bien fonctionner », un petit peu comme les gremlins hein, qui demandaient de la nourriture à partir de minuit, j'ai faim, pour ceux qui ont connu le film. Et aussi, d'un autre côté, il va y avoir ce côté, on n'est pas bien, finalement, on est un petit peu anxieux, notamment après une longue journée, qui peut occasionner des rechutes, notamment d'après-midi, début de soirée. Donc, c'est vrai que c'est des personnes, généralement, qui vont être plutôt en rémission, mais il n'y aura pas de arrêt total, il ne sera pas de vrai non-fumeur, non-malade, mais c'est plutôt une rémission et à en tenir compte pour éviter plus tard les rechutes.
C'est-à-dire qu'en fait, même quand on a arrêté de fumer au bout de 5 ans, on est toujours potentiellement à risque de refumer.
Oui. Toutes les addictions, c'est vrai qu'on est à risque, mais particulièrement, effectivement, les fumeurs, où ils parlent d'une maladie chronique récidivante. C'est-à-dire qu'il y a certains médecins qui, pour le tabac, ont parlé de maladie chronique récidivante. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les autres addictions, même si dans certaines, on pourrait le dire, puisqu'il y a toujours des rechutes possibles, notamment, on le verra pour l'alcool, bien évidemment.
Oh oui, il nous appelle moral, vous, juste avant les fêtes, comme ça, c'est pas vrai. Dites-nous quelque chose de positif, Célia, dites-nous quelque chose, voilà, qui nous fait... on peut pas vous laisser comme ça le vendredi et terminer les... Non imaginez un fumeur qui vous écoute, là, quelqu'un qui dit « Ah, je suis content, ça fait 6 mois !» Et bam, il vous entend, il dit « Bam, il s'allume une clope, là, du coup !»
Non, mais ça peut lui faire justement comprendre que il peut encore avoir envie de la cigarette et qu'il est fragile justement parce que c'est pas aussi évident que ça et c'est surtout pas de la mauvaise volonté. Il y a quelque part un aspect physiologique qui fait que, physiologiquement parlant, effectivement, il y a c'est pas si simple que ça d'être totalement sevré et de se dire ça y est, c'est terminé. C'est pas que de la volonté, il y a un aspect effectivement très biologique lié à cela. Donc ça peut effectivement le rassurer lorsqu'il va avoir une envie de se dire « mon envie, c'est pas mon manque de volonté, c'est tout simplement parce que c'est logique » et donc certainement trouver des stratégies, peut-être avec l'aide de thérapeutes, pour justement éviter de retomber dans les rechutes.
D'accord, donc c'est pas, il peut se dire « je suis pas faible, c'est normal ce qui se passe ». Mais par contre, comment ils font les gens qui arrêtent du jour au lendemain ? Moi j'en ai connu, ils disent « j'ai arrêté il y a 20 ans, du jour au lendemain ».
Alors, je pense que parfois, ça doit être plus facile que d'y aller crescendo. Parce que crescendo, on a encore cet apport. Alors, ça dépend des gens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je pense. Ou alors, il faudrait vraiment demander à un addictologue spécialiste du tabac, donc un tabacologue en plus, qui pourrait expliquer ce phénomène. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit, voilà, j'arrête. Il s'est peut-être tellement préparé à arrêter mentalement au niveau du cerveau qui finalement, il y a une plasticité cérébrale au niveau du cerveau et on peut lui donner un ordre en quelque sorte, et dire « j'arrête ». Et peut-être que justement, de s'être dit « maintenant, c'est terminé », il a réussi finalement à tenir, il n'a pas eu cet appel de « je retourne et j'y vais crescendo ». Il y a des gens qui ont besoin d'y aller par palier, il y a des gens, ils vous disent « du soir au lendemain », et ça peut être ce qu'il y a de mieux, Voilà, donc, ou alors il a trouvé d'autres stratégies à mettre en place qui a fait qu'il a réussi à tenir en dehors de toute volonté, mais peut-être justement de s'être dit, voilà, d'avoir pris cette décision et d'avoir quelque peu forcé son cerveau à faire l'acte qu'il voulait qu'il fasse.
En fait, on dit du jour au lendemain, mais c'est pas vraiment du jour au lendemain. C'est, on y pense depuis un moment, oui. Et d'un seul coup, on passe à l'action, mais c'est pas une décision qu'on prend dans la nuit. C'est un truc qui est en nous depuis, je pense, enfin, j'imagine, hein, voilà, la force qui monte jusqu'à ce que un jour, là, boum, on passe à l'action pour l'arrêt du tabac. Ben, merci beaucoup.
C'est ben, merci.
Merci à vous. Est-ce que vous fumez, vous, d'ailleurs?
Pas du tout.
Bon, d'accord. Je dis, elle m'aurait dit, oui, bien sûr, je suis à 2 paquets par jour. Oui, pourquoi?
Non, je suis aversive justement à l'odeur du tabac, donc je ne fume pas.
Bon, en tous les cas, merci pour ces partages, merci pour ces informations que vous retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h. Et Célia, moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Vous faites quoi pour les fêtes?
Eh ben écoutez, ben je vais vivre ma petite vie, voilà, à Paris, sympa, je vais.
Ah, Paris, sur les champs, voilà. Là, c'est. Enfin, pas sur les champs.
C'est ça, les vitrines. Les vitrines de Noël, là. Sympa. Et puis, essayer de prendre un peu de bon temps et puis de me détendre et de faire de bons repas avec quand même, même si on. Voilà, un petit peu d'alcool
Avec modération, évidemment.
Avec modération, mais du champagne pour les fêtes, tout trouvé quand même.
Vous savez quoi, quand on va revenir, on va parler de l'addiction à l'alcool. Et comme ça, ce sera le sujet de la rentrée avec vous. Merci beaucoup, Célia. Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
La sphère neuro, Célia Moresse sur Nutri Radio.